Bonjour et bienvenue au balado « Mieux connaître, mieux choisir », une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, vous permettant de découvrir plusieurs métiers du marché du travail. Donc, bonjour, bienvenue au podcast « Mieux connaître, mieux choisir ». Aujourd'hui, nous recevons Jocelyn Roy, qui est assistant infirmier-chef aux ressources matérielles du bloc opératoire de l'Hôtel-Dieu de Québec. En fait, il est retraité depuis peu, mais il vient nous parler de son métier. Donc, bonjour.
Bonjour.
Et je suis accompagnée de ma collègue Natacia.
Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation.
Donc,
on peut y aller là, déjà avec une première question d'introduction. On aimerait savoir là, en quoi consiste votre métier, un peu la vision des autres là, versus concrètement ce que vous faites là, au quotidien.
OK. Moi, à prime abord, le domaine des soins infirmiers, c'est un travail qui consiste en gros à donner des soins à la population, à la clientèle qui se présente dans les hôpitaux, dans les CLSC, peu importe l'endroit où tu travailles. Actuellement, je suis à la retraite. Là, je travaille au dépistage de la COVID-19, mais il y a quelques mois, je travaillais comme assistant aux ressources matérielles au bloc opératoire. Fait que mon travail, en gros, il consistait à s'assurer qu'on ait tout au niveau matériel pour fonctionner dans un bloc opératoire. On commence avec un premier point. Si on parle d'une chirurgie orthopédique ou en plastie, le chirurgien orthopédique ou la plasticienne faisait une demande de spécifique de matériel qu'il avait besoin pour une intervention. À partir de là, moi, mon devoir était de contacter le représentant, lui demander les besoins du chirurgien, de s'assurer de la livraison du matériel, de faire la vérification du matériel une fois que le matériel est arrivé, puis le matin de l'intervention, acheminer le matériel, demander en salle d'opération pour que le chirurgien concerné ait ce qu'il a besoin. Et aussi, souvent, que je pourrais dire, c'est qu'il fallait que je m'assure de la présence du représentant, parce que souvent, les chirurgiens qui opèrent, des fois, ont besoin de renseignements spécifiques ou d'ajustements en cours de route, puis les représentants sont là pour guider. Ou ils peuvent guider aussi le personnel infirmier, des fois, parce que ça peut arriver qu'au cours d'une intervention, exemple, en orthopédie, il y a beaucoup de plateaux. Exemple, on peut avoir une chirurgie qui a 16 plateaux qui arrivent, des plateaux d'instruments, 16 plateaux qui arrivent de la compagnie, en plus des 8 plateaux qui sont déjà existants. Fait que souvent, l'infirmière qui est en service interne a de la misère à se retrouver, surtout quand elle n'est pas habituée et qu'on vient de la former. Fait que le représentant est là pour guider l'infirmière à trouver le matériel plus rapidement pour pas que le chirurgien attende. Fait que ça, c'est une tâche un peu en partant. Je peux vous parler aussi des dons d'organes. Nous, où est-ce que je travaillais? On était un hôpital qu'on faisait du prélèvement d'organes. Donc, souvent, je faisais affaire avec Hémo-Québec pour prélever des organes auprès d'un patient qui était mort cérébralement. Fait qu'à ce moment-là, on avait à contacter les hôpitaux qui venaient faire les prélèvements. Eux autres, lors du prélèvement, ils arrivent avec leur équipe de préleveurs, le médecin qui vient prélever. Puis souvent, il y a deux personnes qui l'accompagnent pour faire le travail de prélèvement des organes. Fait que là, il y a l'arrimage aussi là, de tout céduler tout le monde en même temps en fonction de l'état du patient. Des fois, les patients, on peut les garder sur respirateur pendant 48 heures, mais parfois, ça peut arriver qu'il faut prélever en dedans de 12 heures parce que la condition du patient se détériore. Puis là, il y a déjà une mort cérébrale majoritairement quand on fait un don d'organes, mais si les constantes diminuent puis qu'on est pour perdre le patient, bien à ce moment-là, il faut faire ça dans des délais rapides. Il peut arriver aussi que les dons d'organes se fassent dans d'autres hôpitaux de Québec. Mais moi, le centre où je travaillais, j'étais le centre où est-ce qu'il s'en faisait le plus. Donc, tout le matériel pour les dons d'organes, je devais le préparer et le faire acheminer à l'hôpital désigné où est-ce que ça faisait, le don d'organes se faisait. Fait que ça, c'est une des tâches. J'ai aussi travaillé dans les salles d'opération, ce qui m'a amené que régulièrement, j'avais à aller dans des salles d'opération parce que vous savez qu'on est en manque de personnel. Et lorsqu'il y a des maladies, ben on tombe il manque du monde dans différentes salles. Fait que là, il y a un réaménagement avec la coordonnatrice le matin pour s'assurer que toutes les salles d'opération commencent la journée et pour pas canceller et annuler de chirurgie. Fait que pour les pauses et les temps de dîner, des fois, il y a des journées qui n'ont personne. Fait que moi, ça m'amenait à retourner dans les salles d'opération sur mes pauses et mes temps de dîner pour aller remplacer les personnes pour qu'ils puissent prendre leur pause ou leur temps de dîner. L'expérience que j'avais acquise en salle d'opération avant de devenir assistant me servait là pour travailler autant en service interne et externe dans une salle d'opération. Parce que dans une salle d'opération, tu as deux infirmières. une qui travaille directement à côté du chirurgien, qui lui passe les instruments, qui va aspirer le sang lorsqu'il y a des choses, qui va faire la demande de matériel de plus si jamais le chirurgien a besoin de gaz pour éponger le sang ou il manque un instrument parce que là, ils ont une surprise en cours de route. Puis, tu as une autre infirmière qui est en service externe qui, elle, va mettre à jour les notes pendant l'intervention, s'assurer de fournir le matériel qui est en demande constante là, ou d'un fil pour faire une suture, des agrafes, un instrument. On a besoin de... On est en cours de route, on a besoin de la radiographie. La personne en service externe doit faire le téléphone en radiologie pour faire acheminer l'appareil de radiologie pour faire la radiologie en cours de route. Fait que les deux infirmières travaillent ensemble avec le chirurgien qui opère. Fait que moi, ben, c'est pendant le manque de personnel, je suis appelé à aller dans les salles d'opération. Aussi, on est responsable au niveau du matériel de l'ensemble du bloc opératoire. Fait que si jamais il y a un bris d'un tour de laparoscopie pendant une chirurgie, puis que la chirurgie est avancée, puis qu'il y a un saignement, puis tout d'un coup, ils perdent l'écran de la télé qui est sur la tour de laparoscopie, bien, on doit remplacer rapidement. Fait que là, à ce moment-là, il faut appeler au génie biomédical pour qu'ils viennent régler le problème dans les minutes qui suivent. S'ils ne sont pas capables, il faut que je pense à mon plan B. Il faut que j'aie une tour de laparoscopie de disponible pour être capable de la remplacer dans les minutes qui s'en viennent. Parce que là, il y a peut-être un saignement qui est en cours, puis le chirurgien, s'il ne voit rien, il ne peut pas travailler à l'aveugle. Fait qu'il faut penser à ces choses-là. On a une salle de robotique aussi qui peut avoir des problèmes qui peuvent arriver n'importe quand dans la journée. Un écran peut geler, puis d'un coup, hop, le chirurgien ne voit plus ce qu'il fait. Ou il y a un bras du robot qui a un problème. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut être appelé à réagir rapidement pour être capable d'avoir les réponses rapidement et régler le problème rapidement. Ça peut être une affaire aussi banale qu'il y a une lumière qui brûle dans la salle à café. Il faut que je m'occupe d'appeler l'électricien qui vient de la changer. La toilette est bouchée dans la salle de bain des employés. Il faut que j'appelle pour faire régler le problème. Il peut y avoir l'ascenseur qui nous amène au bloc opératoire est défectueuse. Il faut que j'appelle la sécurité pour qu'il appelle la compagnie qui vienne régler le problème. Fait que c'est des petites choses qu'il faut penser. S'il y a des médicaments spécifiques que j'ai besoin pour une intervention, je dois communiquer avec la pharmacie. Avec la prescription du chirurgien pour avoir le médicament pour faire l'intervention. Fait que c'est des tâches qui font un peu ma journée. J'ai d'autres tâches aussi qui sont connexes à ça, comme le matin. Ma journée débute souvent par une tournée de toutes mes salles d'opération pour m'assurer des taux d'humidité et de température dans les salles d'opération, parce que si un taux d'humidité devient élevé, il y a une possibilité de perte de matériel parce que le matériel qui est stérile dans les salles d'opération comme dans toutes les réserves, on ne doit pas atteindre une humidité plus haut que 60 %. Si j'arrive un matin puis on a un problème de chauffage, puis j'ai une humidité à 82 % dans une salle, il faut que je fasse vider la salle d'opération. Il faut que j'appelle le responsable en bâtiment pour qu'il trouve l'équipe pour venir solutionner le problème rapidement. Le matériel qui était dans la salle d'opération ou dans la réserve doit être inspecté pour s'assurer qu'il est encore correct pour des interventions. Puis un matériel stérile qui est endommagé n'est plus bon. Fait qu'à ce moment-là, il y a des pertes matérielles. On doit faire l'inventaire. Puis là, à ce moment-là, une fois que l'inventaire est fait, les documents sont remis à ma chef d'unité pour qu'elle contacte la compagnie d'assurance pour un dédommagement de ça suite à l'incident qui est arrivé. Ça peut être comme tâche, on a eu des événements, là, des gros accidentés qui demandaient des soins plus spécifiques, qui demandaient du matériel en abondance. Là, pour exemple, une personne qui a une température à 32 degrés qu'on doit réchauffer rapidement parce qu'on va la perdre. Fait que là, il y a beaucoup de choses à faire. Les équipes sont dans la salle. Là, il y a un gros travail d'équipe qui se fait à ce moment-là. Il faut réchauffer le patient autant côté externe que côté interne. Le patient, il peut avoir, à ce moment-là, il y a un chirurgien qui est sur place. Il y a une ouverture au niveau de l'abdomen. On insère des liquides, il y a des liquides chauds qui sont remis dans l'abdomen du patient pour le réchauffer. Par contre, les liquides chauds, on a des armoires chaudes. Mais quand il arrive une situation d'urgence, on en manque. Fait que là, il y a quelqu'un qui est dédié à aller au micro-ondes, faire chauffer les liquides, les apporter en salle d'opération. Fait qu'il y a beaucoup de travail d'équipe là, qui se font là, avec le personnel en tant que tel au niveau des soins au niveau d'un patient. À part ça, c'est sûr que tu travailles étroitement avec la chef d'unité du bloc opératoire avec l'assistante à la coordination du bloc opératoire. Il faut toujours qu'on soit en constante communication parce que s'il arrive un problème, peu importe le niveau, ça va affecter tout le réseau au niveau du bloc opératoire. Fait que, si une alarme d'incendie qui est déclenchée, étant assistant aux ressources matérielles, tu as des tâches qui sont attachées à l'évacuation d'un bloc opératoire. Fait que, il y a beaucoup de choses qui sont à savoir. Tu as des protocoles qui sont attachés à ça. Fait que toutes des choses qui sont à savoir, c'est important. Des fois, ton chef d'unité doit s'absenter, ben il te relaie la responsabilité du bloc opératoire. Fait que là, par intérim, temporairement, tu t'assures d'avoir la bonne communication avec le chef des anesthésistes, avec le responsable au niveau de la coordination pour s'assurer qu'il n'y a pas de pépin nulle part. Fait que c'est tout ça, tu as ces fonctions connexes-là. Après ça, j'ai pas mal fait le tour. Puis tu réponds aux besoins ponctuels de tes demandes, que ce soit pour du matériel ou quelqu'un trouve pas un matériel. Toi, tu peux l'aider à trouver où est-ce que c'est. Parce qu'on a plusieurs réserves, puis les personnes qui sont pas habituées, qui ont été formées dernièrement, bien, ils savent pas tout. Fait que dans tes tâches, tu dois prêter assistance au personnel qui travaille avec toi. Régulièrement aussi, s'il y a des changements au niveau de procédure, de matériel, de nouveaux matériels ou des nouvelles techniques à bâtir ou des changements ou du matériel qui est retiré pour X raisons, le matin, on a des caucus pour rencontrer le personnel puis les mettre au courant des changements possibles ou à venir. Fait que c'est encore des tâches qui nous reviennent. Fait que j'ai pas mal fait le tour.
Au travers de toutes ces tâches-là, puis là, je comprends qu'au début de la journée, c'est ça, tu fais le tour des salles pour t'assurer que tout est correct. Est-ce que tu serais capable de nous décrire une journée type?
Bien, c'est sûr que le début de la journée, c'est sensiblement pareil à tous les matins. Tu fais le tour de tes salles d'opération pour vérifier taux humidité et température. Tu t'assures d'avoir le matériel dans les salles d'opération, des besoins pour répondre aux besoins des premières chirurgies. S'il manque une personne, puis ils n'ont personne pour remplacer, ça peut arriver que tu dois débuter une salle d'opération avec quelqu'un. À ce moment-là, ton travail est mis sur pause pour une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps qu'une personne arrive. Après ça, pour ce qui est de la suite de ta journée, il n'y a pas d'ordre toujours établi. C'est que tu peux commencer par entrer les données de la chirurgie de la veille pour placer la commande pour remplacer ces implants-là, exemple, ou tu es appelé dans une salle d'opération pour régler un problème, ou tu as un téléphone qu'il y a un multiprélèvement qui se prépare à un autre hôpital, puis toi, tu dois préparer le matériel, ou ta boss t'appelle pour te dire, ben il faut que tu viennes me rencontrer parce qu'il faut prévoir des changements au niveau de telle salle ou peu importe. Fait que le début de la journée est sensiblement pareil à tous les jours, mais après ça, on fait les mêmes choses, mais pas dans le même ordre.
Fait que c'est vraiment variable d'une journée à l'autre. Puis, y a-tu des défis quotidiens que tu rencontres, justement, au fil des journées, là?
Ben, défi quotidien, c'est souvent de solutionner des problèmes en peu de temps. Peu importe le problème, majoritairement, tu n'as pas 2 heures pour régler ton problème parce que ça a une incidence sur l'intervention en cours, souvent. Fait que aussitôt que ça rentre un problème dans une salle d'opération où est-ce qu'un patient qui est couché sur la table, ça, c'est un défi quotidien de régler ton problème le plus rapidement possible, peu importe le problème, si tu es concerné. Fait que oui, des défis quotidiens, il y en a. Faut que tu te tournes rapidement, faut que tu restes calme. C'est sûr qu'au début, quand tu commences ces fonctions-là, l'anxiété est plus là, le stress est plus là. Tu prends un peu plus de temps pour régler tes problèmes, mais on parle pas d'exagération de temps, mais ça t'en prend un petit peu plus. Au fil du temps, des années, ben souvent, le problème va être présenté, puis quand tu écoutes le problème, tu as déjà le mode solution dans ta tête. Fait que souvent, quand ils ont fini de demander le problème, tu sais déjà où t'en aller, quel téléphone faire, qui intervenir, quoi faire, quoi aller chercher. Ça, on appelle ça l'expérience.
Puis par rapport à l'ensemble de ces tâches-là, combien d'heures par semaine vous êtes appelé à faire, là? Vous étiez appelé à faire, puis à quoi ressemble votre horaire de travail sur une semaine?
Moi, je travaillais uniquement 2 jours, du lundi au vendredi, avec le poste d'assistant. Je travaillais 37h30 par semaine, 2 jours, du lundi au vendredi. Si je serais pas assistant, à ce moment-là, je serais infirmier en salle d'opération. Je ferais quand même 37h30 par semaine. mais je serais appelé à faire de la garde puis à faire des fins de semaine. La garde, on parle de 3h30 de l'après-midi à 8h le lendemain matin. C'est lorsqu'on fait une semaine de garde, on ne travaille pas de jour. Par contre, on est de garde de 3h30 l'après-midi à 8h le lendemain matin. Fait que s'il y a des interventions qui sont déjà planifiées, des urgences, exemple le mardi en fin d'après-midi, ben tu arrives, tu rentres sur place à 3h30 jusqu'à 11h30, tu es toujours sur place. Mais à partir de 11h30, tu tombes sur appel. Fait que si jamais il y a encore des urgences en cours, puis tu es de garde, ben tu continues.
Donc, on peut dire que le poste d'assistant-chef permettait quand même une belle horaire de travail dans un contexte hospitalier, étant donné que le bloc opératoire était fonctionnel de semaine pour les chirurgies qui étaient, prévues à l'avance.
C'est ça. Ça a amélioré beaucoup mes conditions de vie. C'est sûr qu'en avançant dans notre carrière, on avance en âge, puis on essaie toujours d'améliorer nos conditions. Fait que le travail en soins infirmiers, ben c'est un travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Fait que en améliorant nos conditions, en prenant des postes qui sont plus avec plus de responsabilités, ça t'amène certains avantages qui améliorent ta qualité de vie.
Tu en as nommé quand même quelques-uns, mais avec qui tu es amené à collaborer dans le cadre de ce poste-là, justement?
On travaille étroitement avec ceux qui opèrent, fait que les chirurgiens, peu importe la spécialité, les orthopédistes, plasticiens, ORL, chirurgie, chirurgien vasculaire, on est appelé à travailler étroitement avec eux autres. L'assistante à la coordination, on est appelé à travailler avec elle. C'est la personne qui s'occupe des ressources humaines dans le bloc, qui planifie, qui coordonne avec le responsable d'anesthésie de la cellule opératoire, qui intervient dans la décision de groupe au niveau des interventions chirurgicales. Après ça, tu travailles étroitement avec ta chef d'unité, parce que c'est quand même elle qui gère le bloc opératoire. Fait que tu dois la tenir au courant des changements majeurs, de l'arrivée de nouveaux matériels, parce que oui, tu as un pouvoir décisionnel, mais la décision finale, souvent, dans des projets de changement de matériel ou de nouveaux matériels qui arrivent ou qu'une grosse demande de chirurgien, ça prend l'autorisation de ta supérieure. Après ça, je travaille aussi avec les autres personnes des ressources matérielles, des blocs opératoires du CHU, parce que moi, je travaillais dans le CHU, donc je travaille avec les autres ressources matérielles. Une fois par semaine, on a des rencontres virtuelles pour parler de nos problèmes, de nos nouveautés. Fait que ça nous aide ensemble à régler des problèmes, à trouver des solutions. Puis des fois, on a besoin de matériel que nous, on n'a pas sur place immédiatement. Fait qu'on les contacte. Il y a un transfert de matériel qui se fait dans l'heure qui suit parce que l'intervention en cours, il y a eu une surprise, on a besoin d'un matériel X. Après ça, je peux travailler avec les ressources matérielles de d'autres centres aussi. On travaille l'hôpital Laval n'est pas un hôpital qui fait partie du CHU, mais régulièrement, on a affaire à travailler avec eux autres. Ça arrive des fois que je peux travailler avec les ressources matérielles des Îles-de-la-Madeleine, de l'hôpital de Rimouski. À part de ça, on peut travailler en collaboration avec les coordonnateurs aussi. Il y a des choses qui sont planifiées en fin de journée, mais quand il y a du matériel qui peut arriver en fin de journée, à ce moment-là, tu peux avoir besoin de parler à la coordonnatrice qui travaille le soir de l'hôpital pour qu'elle soit au courant qu'il va y avoir l'arrivée de certains produits qu'on a besoin pour le lendemain matin. Fait qu'on travaille en collaboration avec eux autres. Je suis en collaboration avec tous les corps de métier, plombier, électricien, menuisier, parce que régulièrement, je peux avoir besoin de leur parler pour des problèmes. Le génie biomédical, les laboratoires, la banque d'Héma-Québec. C'est même arrivé que des fois, je travaille avec les banques d'os qui sont situées à Québec. Des fois, il faut que j'appelle à Toronto. Des fois, j'ai dû appeler à Vancouver pour avoir un os spécifique pour une intervention oncologique en orthopédie. Puis, c'est sûr que la collaboration avec le personnel du bloc opératoire, ça, c'est à prime abord, c'est ça. C'est le travail avec ton personnel pour répondre à leurs besoins, puis leurs interrogations. C'est ça. Puis, des fois, tu es appelé aussi à faire de la formation. Fait que tu as la collaboration avec ton nouveau personnel que tu vas former pour qu'il soit apte à prendre ta place la journée que tu en as besoin.
Donc, dans la panoplie de ces collaborations-là, là, au quotidien, est-ce que vous considérez que votre mandat était davantage un travail individuel ou un travail d'équipe? Hein?
Travail d'équipe. Il y a une portion individuelle que tu fais, que tu n'as pas besoin de personne, mais un gros pourcentage, c'est un travail d'équipe. Parce que si la journée, parce que c'est arrivé occasionnellement que j'ai dû m'absenter pour X raisons, Puis des fois, il était capable de me remplacer parce que la personne qui me remplaçait était disponible, mais d'autres fois, c'était pas possible parce que la personne était en demande ailleurs. Fait que des fois, je me ressentais 4 heures pour une rencontre ailleurs. Puis quand je revenais, j'avais 12 téléphones en attente sur ma ligne, sur ma boîte vocale. J'avais 4-5 messages sur mon bureau, 10-12 boîtes de plus dans mon bureau. Fait que c'est beaucoup un travail d'équipe parce que aussitôt que tu n'es pas là, il y a une influence sur la bonne démarche du bloc opératoire.
Dans un autre ordre d'idée, à quoi ça ressemble ton parcours scolaire et ton parcours professionnel à la suite justement de ces études-là?
Parcours scolaire, moi j'ai commencé par un DEC en soins infirmiers. À la base, je devais m'en aller à faire un bac en activité physique. Et au courant de l'été, avant d'aller faire mon bac, j'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires dans un centre de soins prolongés. Et je me suis rendu compte que c'est un domaine que j'aimais beaucoup, l'approche avec la clientèle malade, puis que j'étais confortable avec eux autres, puis que j'aimais ça. Fait que suite à ça, lorsque la session a commencé, j'ai réorienté ma carrière en soins infirmiers. Fait que j'ai fait ma formation une technique en soins infirmiers. J'ai commencé à travailler en cours, après quelques années. Je me suis rendu compte que si j'avais plus de formation, j'étais capable d'aller chercher des fonctions plus importantes. Fait que j'ai fait mon bac en soins infirmiers. Puis, tout en travaillant aussi, je suis allé chercher des formations en arythmie pour travailler dans les soins intensifs, unité coronarienne, urgence. Je suis allé chercher mon RCR, réanimation cardio-respiratoire, que tu peux avoir besoin n'importe où, autant au travail qu'à l'extérieur. Je suis allé chercher une formation aussi pour dans la relève des cadres. J'ai commencé cette formation-là, mais finalement, je me suis rendu compte que à force d'avoir les rencontres avec les personnes qui donnaient les formations, que je n'étais pas encore prêt à ça parce que j'étais encore trop proche de tout le monde, puis j'avais comme une difficulté à prendre des décisions qui étaient demandées par mes supérieurs pour éviter de brimer le personnel avec qui je travaillais. Mais au fil des années, ça l'a changé, ça l'a évolué. Puis là, en ayant mon poste d'assistant, à ce moment-là, tous mes lacunes à ce niveau-là avaient changé. Puis c'était devenu des plus là à cause de cette formation que j'étais allé chercher. Fait que ça m'a rendu mon travail un peu plus facile. Après ça, au niveau, il y avait toujours quand même une formation en étant infirmier ou infirmière. On a une exigence de formation de 20 heures par année. Au niveau de peu importe, là, aussitôt il faut que ce soit connexe avec notre travail. Ça peut être une formation sur l'électrocautère qu'on utilise pour faire coaguler le sang lors d'une chirurgie. Ça peut être une formation sur des techniques de pansement. Ça peut être une formation sur l'entretien d'une stomie. Ça peut être une formation sur les notes en soins infirmiers. Ça, c'est des formations aussi que je suis allé chercher au cours de ma carrière pour être plus solide, avoir des bases plus solides avec la job que je faisais. Puis, on a toujours des formations aussi en cours d'emploi. S'il y a du matériel, nouveau matériel qui arrive, il y a la formation qui est donnée par les représentants. Fait que ça, on en a régulièrement. Je vous dirais que un mois sans formation en travaillant dans un bloc opératoire, ça n'arrive pas souvent.
Puis, au niveau professionnel, tu as travaillé à quel endroit au cours de ta carrière?
J'ai travaillé au début de ma carrière comme infirmier dans un centre de soins prolongés, personnes adaptées, pendant un an et demi. Parce qu'au début de ma carrière, avoir un poste à temps complet, c'était difficile dans les hôpitaux. Fait que je devais faire 2-3 places en même temps. Fait que j'ai fait ça. J'ai travaillé dans un centre hospitalier aussi en même temps, puis dans un centre pour personnes en déficience mentale. Fait que j'ai fait ça pendant un an. Jusqu'à temps que mon ancienneté au niveau d'un hôpital augmente. Puis là, graduellement, j'ai laissé les deux autres endroits. Fait que j'ai continué dans le milieu hospitalier. Dans les hôpitaux en tant que tel, j'ai commencé sur les départements généraux comme chirurgie, orthopédie, médecine. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les départements de soins aigus, soins intensifs, urgence, unité coronarienne. Fait qu'au fil des années, j'ai appliqué sur des postes dans ces secteurs-là, puis j'ai eu les formations concernées, fait que j'ai embarqué dans ces secteurs-là au fil des années. Fait que ma carrière, en gros, sauf les 20 dernières années, était dans les soins spécialités aigus. Et puis, après ça, mes 15 dernières années ont été dans un bloc opératoire, parce que c'était un intérêt que j'avais d'aller travailler dans un bloc opératoire avec les chirurgiens, assister pour les interventions chirurgicales. Ça m'a amené aussi avoir la possibilité d'avoir d'autres affaires, d'autres remplacements. J'ai remplacé occasionnellement l'assistante à la coordination. J'ai eu aussi un remplacement de chef d'unité de la stérilisation pendant 18 mois, remplacer la personne qui quittait. Puis suite à ça, j'ai retourné dans les salles d'opération pendant 6 mois. Puis après ça, j'ai eu l'ouverture comme assistant au bloc aux ressources matérielles dans un bloc opératoire. Au cours de ma carrière aussi, j'ai donné de la formation en santé et sécurité au travail. J'ai fait aussi de la surveillance au niveau des activités sportives comme surveillant médical. J'ai travaillé aussi au niveau de salles de spectacle comme surveillant médical. Si jamais il y a un besoin sur place, qu'il y a une personne qui ne va pas bien, je réponds aux besoins. Je le fais encore actuellement d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a d'autres milieux méconnus dans lesquels vous n'avez pas nécessairement œuvré, mais qui pourraient être intéressants là, à connaître au niveau des soins infirmiers?
Oui, il y a plusieurs milieux qu'on peut travailler, qui nous sont accessibles. C'est sûr que l'on a parlé de centres hospitaliers puis de centres de soins prolongés, mais tu as les CLSC, qu'il y a des infirmières ou infirmiers qui travaillent là-dedans, qui peuvent donner des soins sur place ou à domicile. Dans les grandes usines, il y a toujours des bureaux de santé. Si on parle de Ultramar sur la rive sud, il y a un bureau de santé sur place. Il y a des infirmiers, infirmières qui travaillent sur place. Cascade, les papiers Cascade, ils ont un bureau de santé sur place. Fait qu'il y a d'autres grandes usines, d'autres grandes manufactures comme ça qui, c'est une exigence là, au niveau de la santé là, d'avoir quelqu'un sur place. Tu peux travailler au niveau de programmes spéciaux, comme actuellement, on baigne dans la COVID. Ça fait que tu peux travailler au niveau du dépistage, au niveau de la COVID. Tu peux travailler au niveau de la vaccination. Ça fait que ça, c'est des possibilités. Tu peux aller dans des cliniques privées, des cliniques médicales privées ou des cliniques de chirurgie privée. Tu peux travailler là. Les cabinets médicaux, tu peux travailler là-dedans. Les groupes de résidence de personnes âgées qui poussent un peu partout, comme exemple le groupe Maurice, tu peux être appelé à travailler là-dedans, puis s'occuper de la coordination des soins au niveau de cette clientèle-là. Tu peux être appelé à aller travailler dans des dispensaires dans le Nord. Il y a des infirmiers et infirmières qui partent du Québec, qui prennent un sans-solde d'un an, qui vont travailler là-bas, vont aller chercher une autre expérience et qui reviennent dans leur centre hospitalier respectif. Après ça, des fois, il y a des besoins ponctuels, comme on a actuellement avec la COVID, mais il y a des besoins ponctuels qui peuvent être dans des milieux scolaires que tu peux être appelé à aller travailler.
Tu en as parlé un peu tantôt de qu'est-ce qui t'avait amené, là, c'est ton emploi en tant que préposé aux bénéficiaires, mais si tu avais à identifier un ou deux éléments que justement qui t'ont marqué dans cette expérience-là de préposé aux bénéficiaires puis qui ont fait en sorte que finalement tu as cheminé à travers ce domaine-là, ça serait lesquels?
Je te dirais prendre soin des autres. C'est une des données qui m'a incité à aller vers ça. Puis le domaine médical m'a toujours intéressé. Fait que c'est une branche du domaine médical, en quelque part, qui est dans ce secteur-là, qui m'a aidé aussi à aller vers ça. Le goût d'apprendre aussi au niveau de la santé, puis du domaine médical, c'est toujours moi, la biologie à l'école, c'est un secteur que j'aimais, un domaine que j'aimais beaucoup. Fait que c'est un peu connexe à ça, là. Fait que la biologie humaine, le corps humain, fait que c'est quelque chose qui est fascinant. Puis en plus, avec mon cheminement des salles d'opération, que là, au lieu de t'occuper de l'extérieur du patient, bien là, j'ai vu l'intérieur d'un patient, peu importe que ce soit au niveau d'un abdomen, au niveau d'une cuisse, au niveau d'une épaule, au niveau, imaginez n'importe où, là, j'ai pratiquement tout vu, les parties internes et externes. Fait que même manipuler puis pris dans mes mains pour mettre dans un récipient parce qu'il y a un cancer X pour la pièce désignée ou quand on fait un don d'organe, puis qu'à la fin du don d'organe, là, il faut refermer le patient, puis ils nous ont formés à faire la fermeture d'un patient de la plaie abdominale qui, des fois, mesurait 18 cm de large par 45 cm de long. Fait que là, il fallait fermer ça. Fait que, tu sais, il y a bien des choses à même qui sont... En tout cas, moi, que je me sens très à l'aise là-dedans, la vue du sang, ça ne m'épeure pas. Moi, j'étais très confortable là-dedans. Il y en a d'autres pour qui ça ne marche pas. Ils vont aimer mieux travailler dans une épicerie ou travailler dans un bureau. Mais moi, là-dedans, j'étais très confortable et très à l'aise. Je n'ai jamais tourné de l'œil là, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct devant moi. Des fois, les odeurs nous dérangent, mais on passe à travers.
Puis, est-ce que vous êtes en mesure de nous cibler qu'est-ce que vous avez apprécié le plus là, dans le cadre de votre travail, notamment dans votre dernier mandat?
C'est entre autres il y a le travail d'équipe, travailler avec le monde, voir des collègues de travail, de se sentir bien avec eux autres, là, de ne pas avoir de friction, là, c'est un gros plus. La communication avec les spécialistes aussi. Ça peut arriver que des fois, il y ait des besoins puis des exigences que toi, de par ta fonction, tu ne peux pas leur accorder, mais qu'eux autres veulent avoir. Des fois, il y a des frictions, mais ça finit toujours par se replacer. Fait que je te dirais que la communication avec l'ensemble de tous les personnes avec qui tu dois interagir, si elle est bonne, c'est de quoi qui est très agréable pour ça. La satisfaction aussi, à la fin de ta journée, d'avoir tout répondu au mandat que tu avais à faire dans ta journée, c'est une chose aussi qui est quand même importante. Quand tu as des grosses journées puis que tu as une accumulation de travail qui fait que des fois, tu dois choisir entre un projet ou l'autre ou un problème ou l'autre, puis que tu t'entasses un peu de côté parce que tu n'as pas le temps de le faire. Mais l'important, c'est la satisfaction d'avoir fait ta journée, d'avoir passé à travers tous les mandats urgents et importants de ta journée. Ça, c'est une grosse satisfaction.
Puis, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qu'en arrivant dans ce poste-là, ça t'a surpris ou des choses que tu aurais aimé savoir avant?
C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait savoir avant. Alors, quand on est des personnes qui aiment être autonomes et être performants, tu veux tout savoir avant de commencer. Tu veux tout savoir avant d'aller faire face au problème. Mais ça, c'est l'expérience qui te l'apprend. C'est sûr que j'aurais aimé savoir que régulièrement, il faut que tu parles en anglais avec des compagnies. Tu sais, quand tu te débrouilles en anglais, mais que tu n'es pas parfait, bien, ça t'amène des petites barrières des fois. Parce que les premières fois, je demandais à quelqu'un de venir m'aider. Après ça, au fil du temps, là, j'étais correct pour me débrouiller. Aussi, faire face à tout ce que ça implique, ce poste-là, au début, bien, ton assurance est plus fragile. Fait qu'il faut, au fil du temps, là, tu la renforces. Moi, je suis un gars de défi, fait que les problèmes, quand il y en avait, ou les nouveautés qu'il y avait, je faisais face. Fait que c'est encore embêtant de dire qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, parce que souvent, moi, quand je suis rentré en fonction, ma formation n'a pas été de 2 mois, elle a été de 2 jours. Fait que tout ce que je vous ai décrit, il y a des choses qu'on m'a dit en quelques phrases, mais il y a des choses que j'ai fait face à la musique lorsque j'ai fait face au problème. Fait que j'ai appris sur le tas, comme on dit. Puis avec le manque de personnel actuellement dans le réseau, bien, toutes les formations, peu importe à quel niveau, que ce soit une formation qu'on doit donner à une infirmière qui rentre en salle d'opération ou la personne qui va me remplacer, les formations sont plus aussi longues qu'elles étaient. Moi, avant, quand j'ai commencé une formation pour une personne qui rentre dans une salle d'opération, c'était 1 an. Maintenant, c'est 3 mois et demi. Fait que tout est condensé. Toutes les choses importantes sont données, mais c'est plus raccourci. Fait que veux, veux pas, tu as beaucoup de choses que tu apprends en cours de route.
Le milieu des soins infirmiers est tellement vaste, tellement varié, dépendamment des secteurs d'activité, faut comme accepter qu'il y a une certaine portion d'apprentissage qui va se faire en milieu de travail.
Exactement. Comme j'ai mentionné tantôt, même que tu travailles au bloc opératoire ou que tu travailles sur une unité de soins, la formation, il va toujours en avoir. Puis aussitôt que tu prends ta licence d'infirmier ou infirmière, tu as une base de 20 heures de formation par année que tu dois aller chercher. Puis ça change tellement que tu as toujours besoin de mise à jour ou de nouvelles formations pour être capable de suivre les soins comme ils sont actuellement. Parce que si on recule dans les années, moi, quand j'ai commencé ma carrière, travailler comme infirmier, puis travailler comme infirmier aujourd'hui, c'est 2 mondes. C'est pas du tout pareil. Avant, on avait un peu plus de temps de s'asseoir avec le patient, de jaser avec. Maintenant, il y a tellement de paperasse à faire. Les soins, tu les donnes, tu es un peu mauvais. Puis avec le manque de personnel, tu donnes les soins, mais le temps que tu avais à donner à ton patient, ben, tu dois le raccourcir. C'est la réalité d'aujourd'hui.
Le dernier poste que vous aviez occupé, est-ce que vous êtes en mesure de nous cibler les principales qualités nécessaires?
Les qualités, en partant, faut que tu sois une personne qui soit autonome, qui ait un bon sens de la communication parce que tu as affaire à plusieurs personnes. Faut que tu sois minutieux, calme. Faut que tu aies une bonne autocritique parce que quand tu fais une erreur, il faut que tu comprennes pourquoi et que tu sois capable d'ajuster pour pouvoir la répéter parce qu'il peut avoir une incidence plus tard. L'esprit d'équipe est très important. Oui, tu as une fonction que tu es le seul à faire, mais tu travailles avec tout un bloc opératoire, peu importe le niveau, que ce soit un préposé aux bénéficiaires, une infirmière, un chirurgien, ton patron. Toi, tu travailles avec tout ce monde-là. La personne qui donne de la formation. Fait que, tu sais, tu travailles avec tout ce monde-là, fait que le travail d'équipe est important. Il faut que tu aies un certain leadership. Si tu n'en as pas, ben, il faut que tu ailles chercher des outils. Parce que faut des fois, tu as à parler devant le monde, tu as à parler avec les chirurgiens. Oui, c'est du monde qui ont des formations autres que toi, mais en bout de ligne, on est toutes des personnes pareilles. Peu importe le titre, fait qu'il faut être capable de parler avec tout ce monde-là. Faut être capable de s'exprimer facilement. Faut que tu aies une bonne compréhension, que tu sois capable de comprendre les choses qui te sont amenées. Faut que tu aies beaucoup de débrouillardise pour te tourner rapidement face à un problème. Fait que faut que tu aies un bon sens de l'organisation aussi. C'est des qualités qui, si tu les as pas au début, ben il faut que tu les acquières en cours de route parce que sans ça, il y a des choses, si tu as des choses qui te manquent, ben ça va te nuire en quelque part.
Dans un autre ordre d'idée, tu dirais que ce poste-là, il était lié à quelle valeur importante pour toi?
La communication, l'esprit d'équipe, le respect des personnes avec qui tu travailles, peu importe le corps de métier, on travaille tous ensemble, fait qu'il y a un respect mutuel avec tout ça. L'honnêteté, tu sais, il faut que... Quand on te demande des choses, tu as besoin de l'heure juste pour être capable de donner ce qu'il faut. Si tu ne l'as pas, ben ça peut nuire à ton travail. La confidentialité. Il y a des choses qui te sont rapportées que tu as un secret professionnel à respecter, fait que tu dois quand même respecter ça. Il y a des choses que tu dois rapporter, mais il y a des choses que non. En gros, c'est pas mal les valeurs qui font partie de mon travail.
Puis j'entends aussi par rapport à justement l'autocritique que tu parlais tantôt, il y a aussi toute une notion de la valeur de l'humilité aussi pour être capable d'accepter ses erreurs puis de les dépasser, de les comprendre, de les dépasser, puis d'aller au-delà de ça puis de ne pas les refaire finalement. Là.
Oui, c'est sûr. Ton humilité, il faut que tu la mettes dans ta petite poche en arrière puis tu corriges l'erreur puis que tu vas de l'avant parce que sans ça, ça va nuire à ton travail puis... Ça peut avoir des répercussions, aller en même jusqu'à te faire défaire de tes fonctions que tu vas être obligé d'aller vers un autre secteur. Mais quand tu aimes ton travail, tu regardes améliorer tes capacités. Si tu as des lacunes, tu regardes pour les améliorer. Fait que ça dépend de la personne.
Vous l'avez un petit peu nommé là, au cours de notre discussion. Par contre, au niveau de votre secteur, si vous êtes capable de résumer là, les possibilités d'avancement ou de promotion qui peuvent s'offrir à vous là, en cours de carrière?
Comme infirmier?
Oui.
Bon, à la base, ben tu travailles auprès des patients, fait que tu travailles sur des unités de soins. Lorsque tu quittes l'école, ben c'est un peu ta porte d'entrée là, dans le domaine. Tu peux devenir assistant sur un département, donc tu te trouves être responsable du département en tant que tel, là, de t'assurer de la qualité des soins avec ton équipe, de régler les petits pépins, de contacter des spécialistes si besoin. Tu peux être chef d'unité, c'est une fonction qui t'est accessible. Tu peux être coordonnatrice de soir ou de nuit qui s'occupe en général de l'hôpital pour régler les problèmes de l'hôpital, parce que à partir d'une certaine heure, ben, les responsables de département quittent. Fait qu'à ce moment-là, tu as les coordonnateurs ou coordonnatrices qui sont sur place. Tu peux conseiller en soins infirmiers. Fait que ça, c'est une autre porte de sortie. Tu peux être conseiller en prévention des infections. Fait que ça, c'est quelque chose qui est accessible. Tu peux aller travailler dans un CLSC. Comme infirmière, comme responsable d'un CLSC. Tu peux aller travailler tantôt, comme j'ai mentionné, dans le nord du Québec, dans un dispensaire, responsable d'un dispensaire pour donner des soins à 3-4 villages environnants. Tu peux aller travailler dans une usine, responsable des soins de santé de l'usine. Tu as différentes fonctions comme ça, là. Tu peux aller travailler pour, tantôt, je parlais de d'Héma-Québec ou de dons d'organes. Tu peux aller travailler pour ces compagnies-là parce que les personnes qui travaillent des dons d'organes, c'est des infirmiers infirmières. Fait qu'eux autres, à la base, ils ont commencé comme tout le monde, mais ils sont allés travailler dans ce secteur-là. Fait qu'ils vont chercher une spécialité. Fait que tu peux devenir infirmière praticienne, comme on commence à avoir aussi là, pour aider aux médecins parce qu'ils ont des surcharges de travail. Tu peux devenir infirmière, première assistante dans un bloc opératoire. Fait que tu es infirmière dans un bloc qui travaille avec le chirurgien, mais tu peux aller chercher une formation de plus qui te permet de fermer des plaies, de tenir des écarteurs, de faire des tâches que le chirurgien ne peut pas faire parce qu'il est tout seul. Il a besoin de deux autres mains. C'est une formation que tu peux aller chercher en plus. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, d'avancement là, dans ce domaine-là quand tu veux.
Il suffit d'avoir, c'est ça, de la volonté.
Et le goût d'apprendre.
Puis, au niveau du placement, après les études pour une personne, mettons, qui sortirait des études là, comment ça se place en ce moment? Est-ce que tu considères que se placer en emploi, c'est facile? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient faciliter cette intégration-là ou au contraire la rendre plus difficile?
Bien, actuellement, là, en connaissant le contexte, là, avec la pénurie en soins infirmiers, actuellement, il y a même du monde qui sont en train de faire leur cours, qui sont déjà engagés. La demande est très forte. Il y a une pénurie là, d'infirmiers et infirmières. Là. C'est pas juste dans la ville de Québec, c'est partout. Fait que si tu veux travailler comme infirmier infirmière, tu t'en vas à Gaspésie, tu vas un job tout de suite, tu t'en vas à Montréal, ils t'attendent, tu vas dans l'Outaouais, tu t'en vas en Ontario, tu t'en vas aux États-Unis. Et tu resteras pas assis à rien faire. Le travail, la demande est là à tous les niveaux. Fait que c'est pas un problème, là. La personne qui s'en va en soins infirmiers, elle a un travail assuré et avec un nombre d'heures plus qu'elle en veut.
On arrive à la dernière question là, de notre discussion avec vous aujourd'hui. En fait, on aimerait savoir, est-ce que vous croyez que la COVID-19 là, aura des effets à long terme sur le métier? Je crois que vous avez quitté là, pas mal là, au début là, du contexte de la pandémie là, au niveau de la retraite, mais selon vous, là, au niveau du métier, est-ce que ça a un impact?
Oui, il va avoir un impact au niveau des mesures sanitaires à la base, parce qu'avec la problématique qu'on vit actuellement, il y a beaucoup de changements qui ont été apportés à ce niveau-là. Puis je crois que un pourcentage de ces changements-là vont continuer, ils vont rester en place pour améliorer la qualité de soins. C'est sûr que ça va influencer. La reconnaissance du travail d'infirmiers et infirmières. Qui était reconnu, mais qu'avec ce qu'on vit depuis 2 ans, on voit l'importance est encore plus grande de ce travail-là. Il y a des manques flagrants de personnel. Ils ont des mesures incitatives pour essayer de les garder, pour essayer de les faire revenir sur le marché du travail. Moi, j'ai pris ma retraite, puis après quelques mois, j'ai retourné travailler dans le dépistage de la COVID parce qu'il y avait des besoins. Puis la vaccination qui est Il y en a plus actuellement, puis dans les années à venir, probablement qu'il va en avoir plus qu'on en avait avant les pandémies, la pandémie. Fait que notre travail, il va être encore plus reconnu. Notre implication au niveau de la collectivité va rester importante. Il reste à savoir si la relève va être présente. On ne sait pas dans les années à venir comment vont être les entrées en soins infirmiers, en formation. On en aurait besoin de plus, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y en a qui vont commencer puis qui, après un certain nombre de mois en formation, vont arrêter. Il y en a d'autres qui, une fois rendus sur le marché du travail, vont se rendre compte que ce n'est pas un travail qui est fait pour eux.
C'est ce qui conclut notre discussion aujourd'hui. En fait, encore merci là, d'avoir accepté là, l'invitation. C'était super intéressant. Puis, ça nous a aidé à élucider un petit peu c'était quoi ce métier-là. Puis aussi, maintenant, en faisant le parallèle aussi avec plus le poste d'infirmier, là. Fait que c'était super intéressant. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Au nom du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, nous tenons à remercier tous nos invités ainsi que tous nos auditeurs. Au plaisir de vous revoir dans un prochain balado. Restez à l'affût.